Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter?
Il n'y en est pas question.
Ça donne le ton de ce qu'on va parler de toute façon.
Ben oui, tout à fait. Ben oui, Stéphane Laberge. En fait, on est un peu toi et moi des vieux de la vieille dans le domaine de la... Je ne sais même plus comment l'appeler, cybersécurité, sécurité de l'information, sécurité TI, tout ça. Bref, je suis consultant au pigiste à mon compte dans le domaine de, je vais dire ça, cybersécurité en soi. Beaucoup plus sur un axe, je dirais, stratégique, mais beaucoup plus de l'accompagnement des PME ou la haute direction dans leur stratégie ou leur façon de faire. Du moins, c'est ce que je préfère le plus.
Oui, mais c'est fort intéressant. De toute façon, aussi, j'agis dans ces sphères-là. Fait que j'aime bien ce type de mandat-là. Alors, on va aborder le sujet, puis tu l'as abordé sur le pourquoi. Je trouve ça très intéressant parce que pourquoi on fait le travail qu'on fait en cybersécurité, pourquoi on pose les gestes qu'on pose et pourquoi on fait ce qu'on fait. Et dans l'absolu, depuis, en tout cas, de façon respectée, depuis 20 ans, on fait sensiblement les mêmes choses avec sensiblement les mêmes résultats. Donc, il y a des questions qu'on devrait se poser justement sur les raisons pour qu'on pose des gestes et comment on peut justement atteindre des objectifs. Oh. Fait que je vais te laisser partir un peu avec ça aussi, puis on va jaser.
Super. Mais tu vois, je pense que tu as mis la table parce que c'est vraiment le cas. Ça fait au moins, moi, en tout cas, moi, je te connais depuis quasiment, on est rendu vieux. Au moins 20 à 23 ans dans ces eaux-là, je me souviens qu'on est, on a travaillé ensemble à ce moment-là.
Oui.
Puis, honnêtement, tu me dirais qu'est-ce que tu as fait, je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. ceci dit, ce que je constate, puisque tu mentionnes depuis tantôt, c'est, entre le 20 ans puis le aujourd'hui, on a beaucoup maturé en termes de sécurité. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon, on est plus mature qu'avant. On a des spécialités. Je pense qu'on est capable d'avoir aujourd'hui des spécialistes dans à peu près tous les domaines de sécurité qu'on a toujours parlé. Tu sais, on parle de journalisation, on parle de tests d'intrusion, on parle de peu importe quoi. C'est vrai. Sauf que on est encore aujourd'hui en train de parler de sécurité. Ça fait 20 ans, puis oui, à l'époque, on disait peut-être un jour, ça va arriver. Maintenant, on dit à tous les jours, ça arrive. Ça, c'est vrai, le contexte a changé. Mais encore une fois, ça revient au sujet, c'est... Je pense qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment pourquoi qu'on fait de la sécurité? Mon point là-dessus, c'est se dire... est-ce qu'en tant que spécialiste, on a vraiment mis l'emphase sur... on a mis l'emphase sur les contrôles. On a mis l'emphase sur plein de choses. Mais est-ce qu'on les comprend? Ça, c'est un des éléments. Puis, est-ce qu'on sait pourquoi qu'on les applique aussi? On en jasait un petit peu en préambule tantôt, toi et moi. Puis, à la limite, je veux dire, je veux juste reformaser ma tête, là, mais à la limite, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir des gens super compétents, exemple, en gestion de vulnérabilité. Puis, ils vont exécuter leur processus. Ils vont dire, voici une nouvelle vulnérabilité, les boys, il faut le corriger en temps de temps, etc. C'est super clean. Mais comprends-tu pourquoi qu'ils font ce processus-là? Et pourquoi je dis ça, c'est que quand tu commences à dire, OK, corrigeons les vulnérabilités le plus rapidement possible. Oui, c'est super important de prendre action et compagnie. Et là, tu commences à te dévier sur des processus du genre, oui, mais si tu le fais pas, il va falloir que j'ouvre une dérogation. Puis là, finalement, tu ouvres une dérogation. Puis là, finalement, on est en train de gérer des rencontres de suivi de dérogation sur les vulnérabilités. Tu vois, mettons, on parle en grande entreprise, on s'entend bien.
Oui.
Et là, on passe des heures et des heures et des heures là-dessus. Pendant ce temps-là, on est en train de faire de la sécurité. On n'est pas en train de corriger vulnérabilité. On n'est pas en train de corriger... bref, on ne fait pas ça. Donc, on comprend-tu pourquoi que le processus de gestion de vulnérabilité est mis en place? Et là, c'est là qui est intéressant, je trouve, pour moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu le focus sur cette compréhension-là dans le domaine de la sécurité au sens large. C'est probablement vrai aussi en TI, là, mais si on parle de sécurité aujourd'hui, c'est ça.
Ouais, ben, Pour notre domaine, oui. Puis, mais c'est ça, on a beaucoup mécanisé, on a beaucoup fait évoluer. Puis toi, tu parlais de la gestion des vulnérabilités, puis tu sais, il y a des processus robustes, c'est beau, c'est normé, tout ça. Mais on les fait principalement, puis c'est un peu l'élément que tu mentionnes, pour de la conformité. Donc, on perd l'essence de ce qu'on fait. On le fait pour cocher une case et pas pour protéger l'organisation. C'est un peu les critiques qu'il y avait au début de PCI, DSS, entre autres. Le monde dit « Ah, ça fait juste de la conformité, ça mène pas de la sécurité, ça, blablabla. » Oui, c'était vrai, sauf qu'à l'époque, il fallait monter le niveau. Donc, ça servait à monter le niveau de façon générale. Mais les gens qui l'ont appliqué, l'appliquaient pas de façon à comprendre pourquoi. Ils faisaient juste cocher la case parce qu'ils voulaient continuer à pouvoir processer de l'écart de crédit parce que c'était la façon de faire de l'argent. Donc, c'était un peu facile, mais ils comprennent pas le pourquoi. Puis ça devient une chaîne sans fin. Là. C'est comme une chaîne de production. On a un clou à rentrer à tous les matins. Il faut rentrer le même clou. Puis c'est le même clou qui revient tout le temps un peu. C'est fou.
Mais tout à fait. Mais tu sais, c'est un peu ce que j'aime des fois utiliser. Puis l'analogie, mettons, d'un... Ben, je vais y aller comme ça. Là, je vais dire chasser puis sans lit. Mais tu sais, pour moi, ça a l'air un peu étrange, là, mais je mets le contexte. L'organisation serait un grand terrain de football rempli de pissenlits, donc on pourrait dire de problèmes de sécurité ici et là. Mon travail à moi comme spécialiste, c'est je suis les procédures établies, donc un peu comme tu disais, la conformité me demande ABC. Donc, mon ABC, c'est je marche une coupe de pas, j'ai une pelle dans les mains, je creuse à côté d'un pissenlit, je reviens la terre de bord, puis je tape. Bon, le pissenlit est encore là, mais il va repousser un jour. Mais ceci dit, j'avance au prochain pissenlit, je ne me pose plus trop de questions, puis je fais la même chose. Et je fais ça. Là, c'est mon domaine à moi. Mais toi, tu es à côté, puis tu es un spécialiste en test d'intrusion, tu fais exactement la même chose. Tu prends le prochain pissenlit, tu reviens de bord, etc. Donc, ça, c'est le contexte souvent qui est là. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on fait généralement sans trop se poser pourquoi qu'on fait les choses. Surtout non plus sans prendre de hauteur, sans reculer un peu, puis regarder et dire « Hey, j'ai mon beau terrain de football, mais autour, c'est des champs de pissenlits. J'ai beau travailler dessus, là, mais je vais toujours en avoir. » Donc, l'analogie, c'est que l'extérieur serait un peu les gens malveillants, les fraudeurs et compagnie, puis l'entreprise serait le terrain. Là. Donc, c'est un peu comme ça. Puis moi, c'est ça ce qui me bug un peu sur mon domaine depuis plusieurs années du moins, c'est de remarquer, c'est de constater ça, puis de dire, hey, je suis toujours constamment en train de réappliquer quand même la même recette. Je suis conscient de ça, mais le marché me force à aller dans... J'ai pas le choix de suivre la façon établie de faire les choses. Surtout dans la grosse organisation. Je sais pas toi ce que t'en penses, là, mais...
Oui, mais c'est très difficile de sortir de ces cadres-là. Moi, j'utilise peut-être pas cette analogie-là en tant que telle, mais en même temps, je vais mentionner sur le fait du pissenlit, mais sur le besoin d'affaires qui justifie la présence de la sécurité. Parce qu'à bien des égards, la façon que tu le mentionnes, c'est on fait de la sécurité pour la sécurité, on le fait pas pour le bien de l'organisation, on fait pas pour protéger l'organisation, on fait juste parce que c'est marqué dans le manuel. Faut enlever le pissenlit, on enlève le pissenlit, on se pose pas plus de questions. Ou on fait selon notre domaine d'expertise, mais on est très bon dans le retrait du pissenlit, mais on est vraiment très, très bon. Puis c'est pas la qualification des gens qui le font qui est en cause, mais le fait de organisationnellement parlant, comment on dirige les gens aux bons endroits ou ce qui apporte de la valeur à l'organisation aussi. Puis je pense qu'on a perdu de vue d'amener de la valeur, puis on fait juste des réunions pour suivre des dérogations.
Ben, effectivement. C'est drôle parce qu'il y a peut-être quelques mois, j'avais tombé sur un article sur LinkedIn, on voit beaucoup de choses. Puis, parce que il y aurait plusieurs sujets à parler de ça, là, mais il y en a un en particulier qui c'était une personne qui a le même nom de famille que moi, qui avait posté. Et c'était drôle parce que le petit post-it qui avait affiché, c'était, tu as bien mis ce que tu viens de mentionner, c'est dans une journée typique, qu'est-ce qu'on fait en sécurité? Ben, là, on se parle. Un peu partout, d'ailleurs, là, c'est un peu pareil. Mais souvent, c'est tu es surchargé de réunions. Tu en as un après l'autre. Quand tu as un petit peu de temps, tu as des petites mises à jour à faire à ta couche de gestion. Là, il se passe ci, là, il se passe ça et compagnie. Après ça, ben, si tu es chanceux dans une organisation un peu plus structuré, tu as des beaux billets, soit des giras, peu importe. Let's go, on va aller commenter ce qu'il faut faire dans certains giras. Le prochain point, tu sais, on peut aussi des fois avoir un quelques minutes pour faire les quelques petites formations imposées par les RH qui ont des fois même pas rapport à la sécurité, mais c'est correct. T'sais. Donc, tu passes du temps à faire des formations autres. Bon, à un moment donné, tu as deux, trois petites présentations pour que tu livres des livrables. Entre plusieurs rencontres, souvent, let's go, tu te garages dans des présentations à commenter ceux des autres, souvent. Puis un jour ou l'autre, ben, tu passes une petite demi-heure dans ta journée à faire vraiment de la sécurité. Tu finis ta journée, ta semaine est finie, tu as fait une couple d'heures dans ta semaine minimum. Encore une fois, tu t'es-tu posé pourquoi tu as fait les choses? Non, tu es exécuté, tu es sur le pilote automatique toute la semaine.
Oui, puis tu n'as pas le temps non plus. Puis là, tu n'as pas parlé de la tonne de courriels qu'on reçoit. Toutes les ce que moi j'appelle les ventes de travers, c'est-à-dire les commandes de côté qui viennent déplacer sur ce que tu es en train de faire. Parce que là, il y a un projet X qui vient d'arriver puis qui bouscule tout le monde. Fait qu'on est toujours dans une espèce de mouvement sans prendre le temps de se lever la tête puis regarder ce qui se passe autour. On est vraiment à la bourre, là, en train de travailler très fort. Puis c'est comme ça partout. Là.
Exact. Tu sais, c'est vrai qu'on en travaille très fort. Je me dis souvent, j'arrive à la fin de la semaine, je suis brûlé mort. Mais le sentiment de dire, hey, j'ai-tu vraiment apporté quelque chose pour l'organisation pour qui je travaille? J'ai-tu vraiment aidé à se sécuriser? Oui. Mais est-ce que j'ai vraiment fait adéquatement? C'est là que des fois je me pose la question. Parce que pendant qu'on fait toute cette belle petite liste de to-do là, de l'autre côté de la pièce, il y a le fraudeur qui, lui, il y a deux, trois petites activités à faire, c'est-à-dire pénétrer ton réseau, puis le monnayer. En gros, là, c'est lui, sa job, là, il fait sa job, là, il rentre chez vous, pique ton information, puis avant. Mais toi, pendant ce temps-là, tu en fais bien du stock, mais est-ce que tu te protèges réellement contre ça? Oui, par l'application de l'ensemble des mesures. C'est vrai que ça vient contrer tout ça. Mais est-ce que c'est les bonnes choses au bon moment? Est-ce que c'est là que des fois là, que je remarque, surtout dans la grosse organisation, qu'on a le plus de difficultés à bien coordonner tout ça? Puis dans la petite PME, ben il y a un certain genre au secours. Je sais plus quoi faire aussi.
Oui, ben eux autres sont mal pris. Puis, en général, ils n'ont pas nécessairement les moyens ou les capacités de le faire, les PME. Puis c'est d'autant plus un problème, mais... On se pose pas pour le titre, c'est tout, ça vient pour le pourquoi on fait le travail qu'on fait. Puis des fois, c'est ça, il y a des semaines où je termine de travailler, puis je me demande qu'est-ce que j'ai contribué vraiment, au-delà de, ouais, d'avoir fait à la pleine hauteur, par rapport à l'énergie que j'ai mis. Là, je trouve que le rendement est pas toujours très élevé en termes d'amélioration de la posture des clients pour qui je travaille, voir comment est-ce que ça a avancé, est-ce qu'ils ont un bénéfice, est-ce qu'ils sont réellement mieux protégés que la semaine qui a précédé, mm-hmm, par rapport à l'énergie que j'ai mis. Puis généralement, non. Les rencontres, personnellement, j'ai réussi à reprendre le contrôle un peu, mais je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais au plus fort du confinement, c'était l'asile. Là. Les gens ont perdu la carte sur ce genre de choses-là. Et encore plus, le pourquoi. Il y avait peut-être trop de temps libre, fait que même les temps libres de rencontres qui faisaient finalement rien avancer.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Je te dirais que c'est sûr que j'ai eu la chance des fois qu'il y a un mandat peut-être dans des institutions financières à ce moment-là qui, disons que le bateau, il roulait pas mal déjà, mais ça revient quand même si le bateau il roulait, ou ça se dit mal le bateau roulait, mais bon, même s'il roulait... Je suis pas sûr que tout le monde comprend clairement le pourquoi. Mais tu sais, ça me vient un petit flash là. En tout cas, tu te souviens, une vingtaine d'années, on avait des grosses équipes de sécurité quand on était 5 personnes.
Oui. On était contents, là.
C'était vraiment ça. Mais à 5 personnes, tout le monde se connaissait, tout le monde comprenait pourquoi, qu'est-ce que les autres faisaient. Est-ce qu'on comprenait le pourquoi mieux? Pas nécessairement, parce qu'on se fiait encore à notre instinct à cette époque-là, un peu plus, puis quelques petits trucs qui existaient documentés. Mais aujourd'hui, quand tu as une organisation, 400, 500, 600, 1000 personnes en sécurité, tu as une méchante structure organisationnelle qui vient avec ça. Souvent, tu vas avoir une équipe dans le domaine, mettons, de la, je sais pas, de la sensibilisation. Ils sont 5-6 qui travaillent là-dedans. Ils ont un chef d'équipe, puis un directeur, il y a un DP. Et voilà. Fait que ces personnes-là connaissent aucunement, même des fois, la structure à côté de son collègue qui lui fait de la, je sais pas moi, des tests d'intrusion, ou l'autre à côté qui fait de la surveillance, ou l'autre. Et, ils se connaissent même plus, là. C'est rendu que. Fait que chacun excelle dans leur partie, mais ne comprennent plus globalement ce qui se passe. Puis c'est ça que moi je trouve le fun, en tout cas moi dans mon côté à moi, quand j'ai la chance de jouer un rôle où est-ce que je peux prendre un peu d'auteur puis essayer de mettre la colle dans tout ça, ça je trouve ça intéressant. T'sais, dans le sens qu'on est capable des fois mieux réorienter les choses. Mais honnêtement, j'arrive très peu à faire. Des fois, tu te rends compte que t'es avec ta petite rame dans ta chaloupe, puis tu rames dans ta barouette. Là, pour, t'es là, puis tu rames, t'as une belle volonté, mais c'est clairement, ça tu sais qu'on n'est pas dans la bonne direction, les boys, mais tu peux rien faire.
Ah, puis il y a des gens qui vont ramer contre toi aussi, puis tout ce genre de choses-là. Mais effectivement, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'être dans des mandats, justement, où j'avais suffisamment haut dans l'organisation avec une capacité justement de, j'aime ça l'image de faire la colle, moi ce que minimalement essayer de faire que le bateau aille dans la même direction puis que tout le monde soit dans une certaine forme de confort, de même directionnalité là. Mais c'est très difficile de rallier tout ça, ça dure genre pas très longtemps parce que les intérêts individuels finissent par réémerger, parce que dans les grandes organisations, il y a des directeurs avec leur terrain, leur responsabilité, leur pouvoir, leurs choses, qui finissent par justement moins apprécier le fait qu'on vienne interférer, même si c'est nécessaire pour l'organisation de ce degré de communication transverse qui peut avoir lieu, qui peut prendre place.
Ça revient un peu dans ce qu'on jase en termes de pourquoi. C'est chacun un peu leur agenda à eux. Puis je pense que dans certains cas, là, tu sais, je vais me faire haïr peut-être certaines personnes, mais c'est vrai dans un sens. Là, tu sais, beaucoup de personnes sont carriéristes, c'est normal. Ils vont gérer leur organisation ou leur département pour eux essayer de grandir dans toute cette politique-là. Puis, encore une fois, tu sais, en termes de pourquoi, c'est pas de sécuriser en arrière l'intention. C'est de « je veux grandir dans ma carrière ». Et là, quand tu te ramasses avec toute cette mécanique-là en place, mais tu te rends compte qu'ultimement, on en fait-tu la sécurité? On en fait-tu vraiment qui apporte quelque chose dans ce contexte-là? Oui, mais est-ce qu'on le fait de la bonne façon? C'est là que je ne suis pas sûr. C'est honnêtement là.
C'est très difficile. Puis j'aime ça parce que tu parles de la gestion des vulnérabilités, mais c'est juste l'exemple de ça parce que c'est très étroit comme domaine. Et les gens sont en train de le regarder en l'élargissant. Puis c'est là où le pourquoi est important. Là, on commence à parler de surface d'attaque. Quand on commence à aborder de façon macro, donc entreprise ou organisation, parce que la surface d'attaque est nécessairement organisationnelle et n'est pas départementale. Mais là, la personne qui fait son rôle de gestion des vulnérabilités est essentielle dans l'engrenage, mais il fait partie d'un ensemble de choses. Et là, le pourquoi, quand on l'aborde sur surface d'attaque, le pourquoi devient intéressant. OK, on a une surface d'attaque. Pourquoi on a une surface d'attaque? Parce qu'on expose trop de choses. Ah, exact. Pourquoi on expose ces choses? Est-ce que c'est nécessaire d'exposer ces choses? Est-ce que ça l'a... Là, on déborde de la cybersécurité parce que là, on commence à questionner les gens TI. Puis des fois, on reçoit des rushs.
Légèrement, oui.
Il faut avoir un bon bouclier. Parce que des fois, il y a des rushs. On se dit, ouais, mais pourquoi ton système, pourquoi il existe? Puis ça m'est arrivé en carrière d'arriver des gens, tu n'étais même pas capable de savoir pourquoi le système existait. Je me dis, ben, débranche-le d'abord. On va savoir à qui il appartient. Il y a quelqu'un qui va crier quelque part. C'est la personne qui crie, ben, il était peut-être plus nécessaire.
Puis tout ce que tu as mentionné est tellement vrai. Puis si tu regardes nos processus aussi, tu prends la gestion de vulnérabilité, on l'exécute pourquoi? Bon, tu viens bien de l'expliquer. On veut s'assurer de réduire les vulnérabilités sur la surface d'attaque et compagnie. Mais tu t'en vas à rond plus loin après ça. Parce que quand tu commences à rentrer dans les processus, sans trop compter, puis là, tu appliques les bonnes normes du marché. Là, je vais dire ça comme ça, parce que c'est...
Ouais.
Peu importe le type de contrôle, que ce soit dans le NIS, que ce soit n'importe où. Mais tu te vois te ramasser avec, inévitablement, dire, ben je veux gérer les vulnérabilités, il faut que tu les appliques dans un certain délai. Là, on est tous là aujourd'hui encore. T'sais, on veut automatiser ça au maximum, mais il faut un certain délai encore aujourd'hui. Certaines organisations vont dire X jours pour tel cas. Mais là, tu n'es pas capable de l'appliquer. Est-ce que tu te ramasses où? Tu te ramasses en gestion d'exception ou de dérogation. Là, tu es dans la paperasse de gérer les écarts que tu n'es pas capable d'appliquer. Là, tu te fais des super beaux comités, une fois par semaine ou deux semaines, qui gèrent toutes les dérogations qui avancent pas ou les vulnérabilités que tu n'as pas réussi à corriger là-dedans. Et là, tu te dis, ah non, mais c'est pas grave, je vais les envoyer ceux-là en gestion de risque. Donc, tu te crées des beaux nouveaux risques. Mais finalement, tes vulnérabilités, tu ne les as pas corrigées, là. Donc, tu te ramasses X mois plus tard, ça grandit sans zéro le nombre de vulnérabilités.
Des fois, X années plus tard, les mêmes vulnérabilités traînent encore et ils traînent encore en exception. On fait encore des suivis.
Exact.
On en parle encore.
Exactement.
C'est super drôle.
Puis, tu sais, ultimement, quand tu te reposes la question, tu dis, mais pourquoi tu as mis en place ce processus de gestion de vulnérabilité dans tout ce contexte-là? Puis, ça encore, c'est un peu ce que démontre Batco.
Ouais,
c'est plus dans ma réflexion.
Oui, puis l'exemple récent que j'ai eu puis que j'ai trouvé très intéressant, ça a été la vulnérabilité de Log4j qui a à peu près un an. Justement, où les gens se sont énervés en fou, ont travaillé en fou, sans prendre le temps, juste le pas de recul. Puis il existait des mesures de mitigation, pas parfaites, mais qui donnaient le temps, justement, d'agir en conséquence. Et j'ai connu beaucoup d'organisations qui ont juste payé des gens en temps supplémentaire pendant le temps des fêtes. Fait qu'ils ont gâché le temps des fêtes de bien des gens.
Exact.
Sur une urgence qui était, à mon avis, fictive, parce que la mise en contexte de cet élément-là, même si la vulnérabilité était très critique, il était facile de la limiter ou littéralement la casser en mettant deux petites mesures techniques qui venaient bloquer ça en amont. Et ensuite, on se dit, bon, on s'achète du temps. Et là, on laisse les gens le déployer intelligemment et dans un temps raisonnable et humain. Mais c'est pas ça qui s'est passé parce que là, la panique a pris. On ne savait pas pourquoi on le faisait, mais il fallait le faire. C'est ça, là, c'est l'urgence, le marché. Tout le monde a dit, c'est ça, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe. Il faut le faire.
Exactement. T'sais, l'humain a tendance à se suivre. Il suffit qu'un qui marche dans une direction, puis il y en a 50 qui marchent dans une direction, un qui marche dans l'autre direction, une autre coupe va se poser la question, on dit pourquoi que vous vers là? Il y a des bonnes chances à un moment donné d'une coupe qui va se déplacer vers l'autre personne, puis avec le temps, en marchant, tu vas dire les 50 autres personnes vont être en arrière du groupe. Là. Il y a comme une attraction qui se fait comme ça, mais tu comprends plus pourquoi t'es là. Mais t'es là.
Oui, c'est ça. Et pourquoi?
Mais t'es là, tu dis, OK, ben, ça avait l'air que c'est par là qu'il faut aller. Ça avait... Et là, encore une fois, ça avait l'air qu'il fallait que j'applique ma belle petite norme et un X ou mon standard Y ou ma politique Z ou je crois qu'il faut que j'aille cocher ma petite coche de conformité. L'autre qui est ici, c'est ça qui se passe, là, ultimement. Donc, c'est pour ça que je pense que ce que j'espère dans le cadre de notre métier, puis moi, personnellement, j'essaie de travailler le plus possible et honnêtement, j'y arrive pas toujours. Bien, c'est toujours revenir sur OK, bon, Stéphane, pourquoi tu fais ça? Quand tu recommandes quelque chose, pourquoi que l'organisation le fait? T'sais? Puis je me repose ces questions-là, puis j'essaie d'y aller le plus possible en fonction de ces réponses-là. Puis des fois, bien, ça va arriver qu'on me dit hey, Stéphane, t'es vraiment mais trop souple. Ça n'a pas d'allure. Tu nous proposes de quoi? Que c'est hors des standards et compagnie. Ben oui. Mais c'est parce que je sais que ça va fonctionner. Puis dans la réalité, c'est souvent, tu dis, j'ai le choix de passer de l'étape A à Z par toute l'étape A, B, C, D, E, F, ou faire des petits sauts quantiques là-dedans, là, on va dire précisément ça, là. Puis dire, bien, j'arrive de A à X puis Z. Puis là, j'ai passé moins de temps, puis finalement, bien, je suis arrivé à la finalité parce que je comprenais un peu plus le pourquoi je voulais me rendre là. C'est un peu ça, garder le focus sur le sens qu'on veut aller, là.
Mais le pourquoi, puis j'ai eu, je trouve ça intéressant cet exemple-là. Puis effectivement, bon, on ne dit pas que je suis souple, mais en général, je t'accommode. Mais ça, c'est les gestionnaires aiment ça, œuvrer avec moi parce que je leur trouve toujours un chemin de passage. Mais toujours dans la mesure où on va arriver à l'objectif de sécurité, de protéger l'organisation. mais dans les moyens qui nous sont à notre disposition, puis pas dans un entêtement idéologique. Puis c'est aussi ça, l'entêtement idéologique, et je l'ai vu à bien des places. Je pense que je vais me faire lancer des rushs en disant que les gens doivent se sentir visés, là, mais ça mène à rien, ça mène pas à la sécurité. On dit ça depuis le début, ça mène à rien. Puis toujours de trouver une stratégie qui mène à de la valeur. Mais ça, j'amène toujours de la valeur, mais au sens sécurité, c'est-à-dire qu'on amène vraiment quelque chose. Puis c'est pas toujours dans le chemin standard. Puis dans mon expérience, c'est rarement dans le chemin standard, là, en plus.
Non, des fois, tu marches dans un petit chemin à côté avec les branches dans la bouche, puis ça te frappe sur la face. Puis il faut que tu te justifies aux deux secondes de voyons pourquoi tu as pris cette décision-là. Mais je pense qu'en plus vieux routier, des fois, tu peux t'oser prendre ce chemin-là, puis tu te dis, bon, à la finalité, je suis content de la résultante. Tu vois, j'ai œuvré, moi, dans certains de mes mandats, où ce que je faisais l'interface entre sécurité et les TI. Donc, je représentais un secteur TI, mais en termes de sécurité. Puis c'était souvent ça qui arrivait. C'était comme, Stéphane, peux-tu nous aider à faire avancer ça adéquatement? Mais on veut le faire de bonne façon. Mais peux-tu nous aider un peu à ouvrir les portes? Mais c'était souvent ça. Si je prenais le chemin régulier, ça m'aurait pris 22 ans. Puis si je prenais le chemin d'à côté avec les branches puis le caillou d'en face, ben, ça me prenait une couple de jours, une couple d'heures. Puis finalement, tu arrivais à la même résultante, là.
Tu arrivais au même objectif.
Oui.
C'est essentiellement ça. Oui, je l'ai fait. J'ai déjà été du côté de TI pour essayer des aider à interpréter ce que la sécurité voulait dire. Là. Mais ça, c'est dans un mandat très spécifique où la personne de sécurité était très dogmatique, justement, puis il fallait nuancer sur la réalité de terrain de ce que c'est réellement. Puis le bénéfice réel de faire ce genre de choses-là. Mais tu sais, j'ai des cas, j'en ai un, c'est parce que j'ai repensé à cette période-là. J'avais une personne qui arrivait avec les affaires de mots de passe, puis ci, puis ça, puis les exigences, puis machin. Ben, OK, c'est bien. Je vois que tu as lu le livre comme tout le monde, tu as lu le même livre que tout le monde. Maintenant, l'appliques-tu dans ta vie, ça? Ben, non, mais c'est même trop compliqué. Ben là, pourquoi tu l'exiges? Pourquoi tu exiges qu'on l'applique si tu ne le fais pas toi-même? Ben là, tu n'as pas... explique-moi. Fait que ça avait débouté le processus qui avait été à côté de ça, puis ça l'avait complètement déstabilisé. Mais dis-là, à un moment donné, on est des humains. Si t'es toi-même, t'es pas capable de l'appliquer à toi, comment tu peux l'imposer aux autres? Ça avait été un des dossiers. Puis l'autre, pour les mots de passe, on avait été une espèce d'exigence. Les espèces d'exigences, 45 jours, 8 de long, complexe, puis genre, tu peux pas des choses qui se répètent, quelque chose qui se peut pas. Là, quasiment que tu fasses... le sacrifice d'une chèvre pour inscrire ton mot de passe. Fait qu'on avait ce genre de critères-là dans notre organisation. Là, on avait une certaine autonomie dans notre groupuscule. Puis moi, ce que je dis, non, arrêtez avec vos idées débiles. On va faire du 90 jours. On va faire du non complexe. Mais ça va être des mots de passe, je pense que c'était de 12 ou de 16 caractères de long. Fait que vous pouvez écrire une phrase, faire vos affaires. On ne change pas souvent. Puis c'est pas complexe, puis vous n'avez pas genre à vous retenir, de vous souvenir de quelque chose qui se peut pas, qu'on n'est pas capable comme humain de se souvenir.
Exact.
Puis mathématiquement, ça marche.
Mais
parce que l'entropie, puis tout ça. Exactement. C'est la démonstration mathématique, là, par exemple. Si là, tu sais, pour que j'allais me battre, là, j'ai fait comme ben, votre formule, votre mot de passe se casse en temps. Moi, la formule que j'ai, mon mot de passe se casse en genre plusieurs millions d'années de plus que vous autres. Donc, ma stratégie, elle est fondamentalement plus sécuritaire que la vôtre. Exactement. Mais je n'ai pas des mots de passe complexes. Je n'emmerde pas les utilisateurs 45 jours. Je leur laisse 90 jours. Puis ça, si on parle des années des années 2000. Là. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, on ne parlait pas de passwordless puis d'affaires de même. On n'était pas encore dans cet univers-là.
Et effectivement, c'était dans un autre contexte. D'ailleurs, les normes de l'époque exigeaient, encore une fois, tu sais, c'était comme 8 caractères puis blablabla. Blablabla. C'était pas ce que tu mentionnais. Puis, mais il fallait être un plus une compréhension du.
Oui.
Encore une fois, une compréhension du pourquoi. Qu'est-ce que ça amenait, le fait d'avoir ce genre de mécanisme-là? C'est quoi les impacts pour l'organisation versus qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu différent? Encore une fois, le chemin avec la branche puis et compagnie, puis arriver à une façon ou un contrôle qui va être beaucoup aussi efficace, sinon meilleur, mais beaucoup plus simple pour tout le monde aussi.
Oui, c'est ça. Puis l'histoire des mots de passe est intéressante. Puis si ma mémoire ne me trompe pas, je pense que ça a été fait sur le coin d'une table par un consultant d'IBM des années 70. Il fallait qu'il fasse une norme. Il a fait comme moi. On va faire genre 6 caractères complexes ou 45 jours. Pouf, il a mis ça sur une feuille de papier. Puis c'est devenu comme ensuite ce qui est devenu la norme pour tout le monde.
Adapté, effectivement.
Mais il n'y a personne qui s'est posé de question. Il n'y a jamais personne qui a fait d'études mathématiques. Il n'y a jamais eu rien. Le doux, dans la fin des années 70, il a décidé de faire ça comme ça. On va juste répéter la même chose comme un peu. Tu parlais du chemin, tout le monde s'en va dans une direction.
Exact.
Tout le monde est allé dans une direction sans même se poser la question de la validité de la démarche qui était faite.
On l'a tout un peu fait, là. Je veux dire, je me souviens à mon début de carrière, je m'en souviens, je regardais les documents du Sense Institute à l'époque pour les formations qu'il y avait. Tu sais, tu prenais ça quasiment comme une Bible. Tu disais, mon Dieu, ça dit, il faut faire ça de cette manière-là, de manière-là, de cette manière-là. On le faisait de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Tu te posais pas trop de questions. Mais.
Non, ben, en début de carrière, c'est normal aussi, là. C'est le fait qu'on ait des vieux routiers, c'est parce qu'on a fait des erreurs, puis on a fait ça aussi, là. On a nos cicatrices de combat, là.
Tout à fait. C'est vrai.
On les a faites, ces erreurs-là. On s'est confrontés aux TI ou aux utilisateurs qui n'étaient pas contents quand on arrivait à des choses. Oui, mais le NIS, il dit ça. Oui, non, mais ça fait pas de sens. Oui, mais le NIS, il dit. Oui, non, mais retourne dans ta grotte. Retourne dans ton petit groupe, puisque le 3 personnes là, qu'on n'écoute pas vraiment. Là.
Effectivement. Oui. C'était ça jusqu'à là, peut-être quoi, 5 ans?
Oui, à peu près. Oui.
À peu près, là. C'était, on n'écoute pas plus que 5 ans, là, mais effectivement.
Fait que c'est ça.
Bon.
Ça fait un bon tour de ce sujet-là, très intéressant, de cette conversation-là, très intéressante. Puis ça alimente un peu ce qu'on avait déjà discuté en pré-show. Je te remercie énormément. J'espère qu'on va reprendre ce genre de conversation-là. Puis c'est très intéressant de minimalement partager, peut-être pas débattre tant que ça, mais de partager ces souvenirs de vieux routiers-là, justement probablement pour le bénéfice de tous, puis justement qu'on puisse peut-être contribuer au fait que les gens vont se poser un peu plus le pourquoi. Puis on va arrêter de suivre à la lettre des vieilles affaires qu'on ne sait pas pourquoi on fait, puis que ça va améliorer notre situation, puis que dans 20 ans, on arrête de faire les mêmes choses qu'on fait maintenant, puis qu'on ne soit pas dans le pétrin comme on est présentement.
Exactement. Ça serait mon souhait, moi aussi, tu sais, que les gens, s'il y a un mot à retenir de toute notre discussion, c'est un peu ça. Posez-vous la question. Ce que je fais, je comprends-tu vraiment pourquoi je le fais? Au-delà de ce qui est écrit dans ma procédure, là. Je comprends-tu? Puis si je comprends pas, mais au moins le réflexe mental d'aller plus loin et essayer de comprendre pourquoi. Questionner avec des collègues, voir, challenger un petit peu. Tu sais, quand on dit challenger l'existant, c'est un petit peu ça. Puis là, maintenant, on peut se rendre compte que, OK, là, j'ai fait vraiment la bonne chose quand même. Oui, c'était la bonne chose à faire. Là, je ne dis pas toujours de challenger tout, là. mais quand tu comprends minimumement ce que tu fais, je pense que ça va aider. Puis si jamais tu ne le comprends pas, mais je pense que c'est intéressant de poser la question au voisin, je suis sûr qu'il ne comprend pas plus. Puis peut-être qu'en rechallengeant un petit peu tout ça, on va avoir un meilleur contrôle, une meilleure façon de l'appliquer. Ça va coûter moins cher à l'organisation, ça va être plus efficace. Puis on va y arriver.
Il y a cet élément-là, au minimum, la personne qui pose la question va apprendre le pourquoi aussi.
Exact.
Et puis des fois, ça, c'est une erreur qu'on fait de ne pas expliquer le pourquoi les choses se font. Moi, je fais un énorme effort de toujours expliquer pourquoi le geste est posé et pourquoi on doit faire la chose, justement pour éviter cette situation d'aveuglement où les gens font rien sans trop savoir pourquoi. Là.
Exact. Super.
C'est bon.
Donc, je te remercie grandement de m'avoir invité, puis au plaisir.
Merci.